Alors j'espère que depuis ce matin, vous n'êtes pas trop déprimé par ce que je vous raconte et que la Vierge Marie vous aide à vivre cette journée dans la joie, dans la paix, dans la reconnaissance. Je voulais vous inviter aussi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à faire connaissance avec un autre saint de Paray-le-Monial, Saint Claude la Colombière. C'est une autre possibilité à faire en fin d'après-midi, mais que j'ai peur d'oublier, donc je vous en parle tout de suite. On est allé pendant le chemin de croix, on a fait une station devant la chapelle Saint-Claude. Saint-Claude était le confesseur de Marguerite Marie, et surtout c'est l'apôtre de la confiance en Dieu. Et il me semblait qu'aujourd'hui, dans cette journée particulière du Samedi Saint, avec tout ce que nous avons entendu, peut-être que nous avons besoin d'avoir un grand frère qui prie pour nous, qui nous accompagne dans cette démarche de confiance dans laquelle nous sommes entrés, pour nous remettre entièrement à la miséricorde de Dieu, pour accueillir le salut. Voilà, c'est un saint qui va intercéder pour nous. Demandons-lui de prier avec nous. Alors, ce soir, nous entrerons dans la vigile pascale, cette grande veillée dont saint Augustin disait qu'elle est la mère de toutes les saintes veillées. Cette nuit très sainte, la nuit de Pâques, c'est le point culminant, le sommet de l'année liturgique et de tout le culte chrétien. C'est la plus grande fête de l'année, la vigile pascale. Dans notre triptyque, si je peux reprendre cette image, c'est pas le troisième tableau, c'est le tableau central. Vous savez, dans un triptyque, j'y connais rien, mais il y a un tableau central qui est important et puis il y a deux autres qui l'éclairent sur les côtés, je pense. Et donc, d'une certaine manière, la vigile pascale est ce tableau central. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, c'était la seule fête de Pâques, avant même que le carême existe, avant même qu'on ait pensé à célébrer particulièrement le vendredi et le samedi, on célébrait tout dans la nuit, c'est-à-dire de l'institution de l'Eucharistie, la croix, tout ce qu'on a vécu, le tridium pascal, était pendant la nuit. Ça se terminait vers 3 heures du matin par l'Eucharistie qui était l'Eucharistie de Pâques. Et il n'y a pas eu de messe du jour de Pâques avant le 7e siècle. Vous voyez, on n'avait pas pensé à ça, parce que tout était fait dans la nuit. Et donc, dans cette grande nuit, nous allons vivre le passage, ce fameux passage, cette Pâque, le passage de la mort à la vie. Alors, ça va être long, ça va être beau. C'est vraiment le sommet de notre retraite. C'est pour ça que nous pouvons nous y préparer dès maintenant, pour faire grandir notre désir de le vivre à fond. Alors la vigile pascale fait référence, en fait comme tout notre tridium, vous l'avez compris maintenant, à la Pâque des Hébreux. La Bible a une image expressive, si vous relisez Exode 12 et suivant, 12, 13, 14, 15, la Bible a cette image, le Seigneur veillant toute la nuit pour arracher son peuple à l'esclavage et à l'extermination. Vous savez, au moment où tous les garçons qui naissaient étaient jetés dans le Nil, et en fait, le Seigneur veillait pour protéger son peuple. Exode 12, 42, « Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce doit être pour eux, de génération en génération, une nuit de veille en l'honneur du Seigneur. » Le Seigneur a veillé, et en retour, les Israélites doivent veiller. Voilà le commandement que donne Exode 12. Chaque année, les Juifs sanctifient cette nuit par une veillée de prière et de louange. Et cette année coïncide. On lit dans la tradition juive ce texte qu'on pourrait adapter à ce qu'on va vivre nous-mêmes ce soir. Il est de notre devoir, Dieu notre Père, de te remercier, de te chanter, te louer, te glorifier, t'exalter, te bénir, te magnifier et de t'honorer pour les merveilles accomplies en faveur de nos pères dans la foi et en notre faveur aujourd'hui. Tu nous as fait passer de l'esclavage à la liberté, de l'affliction à la joie, du deuil à la fête, de l'obscurité à la pleine lumière, de la servitude à la rédemption. On pourrait prendre à notre compte, mot pour mot, cette prière juive qui décrit si bien cette veillée que nous allons vivre nous aussi. La Pâque des Hébreux était donc la préfiguration de la nuit de la véritable libération, la nuit où le Christ victorieux s'est relevé des enfers, comme le chante l'Exultet dont nous reparlerons. C'est pourquoi les chrétiens, eux aussi, se doivent de sanctifier cette nuit, qui est la nuit maintenant de la résurrection du Christ. Sanctifier cette nuit par une veille en l'honneur du Seigneur. Donc nous allons veiller assez longtemps. Cette veillée est la mère de toutes les veillées. Alors elle a plusieurs buts, cette grande vigile. Comme nos frères aînés, les Juifs, nous faisons mémoire de ce que Dieu a fait pour nous et pour entretenir notre foi et notre reconnaissance. Elle a un but aussi eschatologique, c'est-à-dire qu'on attend la venue du Christ dans la gloire. Vous vous rappelez, dans Marc 13, 3, Jésus demande de veiller. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Maître reviendra. » Cette nuit, peut-être. Veillez donc. Et puis, c'est aussi la veillée d'initiation chrétienne pour les catéchumènes qui se sont préparés pendant le baptême. Et pour nous, qui sommes déjà baptisés, je pense, c'est aussi la nuit où nous allons pouvoir renouveler les promesses de notre baptême. Les catéchumènes adultes reçoivent les trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie pendant la vigile pascale. C'est véritablement leur passage. Ils sont ensevelis dans le baptême, dans la mort et la résurrection du Christ. Mais nous aussi, c'est ce que nous allons vivre, c'est pourquoi nous nous y préparons depuis ce matin et même depuis deux jours. La Pâque est comme cette fête annuelle de l'initiation chrétienne, comme l'anniversaire commun de nos baptêmes, de nos premières communions. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Alors cette veillée se déroule entièrement la nuit. C'est tout à fait symbolique, puisque la lumière a jailli dans les ténèbres. Vous avez compris maintenant ce symbolisme de la lumière. Le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Les ténèbres représentant le mal, le péché, la mort. Le Christ vient apporter sa lumière. Alors, cette vigile comporte quatre parties. D'une part, le lucernaire, la liturgie de la lumière, et l'annonce de la Pâque. C'est comme un prélude, déjà assez important. Et puis ensuite, une longue liturgie de la parole, comme le dimanche à la messe, mais en beaucoup plus long. Nous allons lire un certain nombre de lectures de l'Ancien Testament, puis une lecture du Nouveau Testament et l'Évangile, bien sûr, de la résurrection. Et puis ensuite, la liturgie baptismale qui a lieu, qu'il y ait un baptême ou pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de baptême, de toute façon, nous vivons ce rite de l'eau, de l'aspersion qui va nous permettre de faire mémoire de notre propre baptême. Et puis enfin, la liturgie eucharistique à proprement parler, qui sera comme ce que vous connaissez, mais voilà, version encore plus intense, évidemment, puisque c'est comme un grand crescendo à partir du début de la veillée jusqu'à la fin. Vous verrez. Alors, le lucernaire, d'abord, c'est l'action de grâce pour la lumière. L'allumage des lampes au début de la fête est un rite ancien chez les Juifs, le vendredi soir pour l'entrée dans le Shabbat. Le père de famille commence par bénir la lampe allumée par la maîtresse de maison, en remerciant et en bénissant Dieu qui créa la lumière. Les premiers chrétiens ont donné un sens nouveau à cet usage en rendant grâce pour le Christ, lumière du monde, chaque samedi soir au début de la vigile dominicale. Chaque samedi soir, nous entrons dans la Pâque que nous célébrons chaque dimanche. Alors évidemment, le jour de Pâques annuel, c'est la même chose sont beaucoup plus solennelles. Le Christ est la lumière, le soleil sans couchant. Cette lumière manifeste sa résurrection. Le soleil sans couchant. Il se lève du tombeau et il ne meurt plus. C'est pourquoi nous nous retrouverons à l'extérieur de l'Église autour du feu nouveau. Ce feu nouveau, c'est le symbole justement de cette nouveauté de Pâques. Ce soir, nous voulons, le Seigneur veut faire toutes choses nouvelles pour nous. Et donc l'Église sera d'abord sombre, le tabernacle est toujours ouvert, et nous commençons à l'extérieur. Et puis nous entrons derrière le cierge pascal que nous allumons au feu nouveau. Alors ce cierge pascal justement représente, symbolise le Christ ressuscité. Il y a une joie particulière à contempler le cierge pascal. C'est la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Toute petite flamme qui pénètre en premier dans l'Église. Et rappelez-vous cette image de cet endroit sombre où on apporte une petite lumière et voilà que la lumière grandit. Nous allons l'acclamer. Quand le diacre chantera « Lumière du Christ », nous répondrons « Nous rendons grâce à Dieu ». Puis nous pourrons allumer nos cierges à ce cierge pascal et voilà que cette lumière va se répandre. Et la procession entrée dans l'Église. Rappelons-nous cette parole de saint Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Dans cette procession, nous célébrons déjà le triomphe du Seigneur. Nous chantons sa victoire définitive sur les ombres du péché et de la mort. Et une fois arrivés dans l'Église, le diacre déposera le cierge pascal à côté de l'ambon, entre l'ambon et l'autel, probablement, où il restera jusqu'à la Pentecôte. Quand vous rentrerez chez vous, après ce temps fort ici, dans votre église, chez vous, dans votre paroisse, vous pourrez aussi voir ce cierge pascal qui sera dans toutes les églises. Et ça vous permettra pendant tout le temps pascal de faire mémoire de ce que vous avez reçu, de rendre grâce en priant devant ce cierge pascal. Présence du Christ ressuscité. Et alors, une fois que le cierge pascal aura été déposé, le diacre ou quelqu'un d'autre chantera l'Exultet. Magnifique chant qui annonce la Pâque, qui annonce la résurrection du Christ solennellement. C'est un moment très intense. Soyons attentifs aux paroles de ce chant très ancien, que je vais citer comme ça. Il y a plusieurs versions, donc je ne sais pas laquelle on entendra ce soir, mais en tout cas, je vais vous citer déjà une partie. Alors c'est un grand chant de louange qui a la forme, qui a la forme d'une préface au milieu. Enfin, on rend grâce pour tout ce que Dieu a fait dans l'histoire sainte. Et je cite un passage qui va nous parler avec ce qu'on a entendu ce matin sur le samedi saint, sur Adam que le Christ va chercher dans le tombeau. Voilà ce que chante l'Exultet. C'est lui, le Christ, qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mis à mort l'agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. Le cierge pascal symbolise cette colonne lumineuse qui guidait le peuple et qui matérialisait la présence de Dieu. Je vous invite à relire ces textes fondateurs dans Exode 12 et suivants. Regardons-le ce soir, regardons le cierge pascal et dans les semaines qui viennent, en rentrant chez nous, il est notre sauveur, il est le Christ qui reste avec nous. Suivons-le ce soir Dans la procession, suivons-le, il nous conduit à travers la nuit de ce monde vers la lumière sans déclin. C'est lui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Vous vous rappelez de ce texte d'Exode 12 qu'on a lu au début du Triduum, jeudi soir, ça paraît déjà très loin, où avec ces prescriptions de la Pâque, on prendra du sang que l'on mettra sur deux montants, sur les linteaux des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain, des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Bien voilà, ce soir, nous y sommes. Nous allons passer la mer Rouge. Notre délivrance est proche. La vie nouvelle est devant nous. Toute la vigile pascale va nous faire vivre cet itinéraire de la mort à la vie. Nous allons être tirés du tombeau par le Christ victorieux. Nous allons vivre symboliquement ce passage de la mer vers le salut, vers la terre promise. Nous entendrons la lecture du passage de la mer Rouge dans Exode 14, puis nous chanterons le cantique de victoire qui suit. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire, il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ce texte est un texte central de la vigile pascale. Il y a un certain nombre de lectures, comme je vous ai dit, dans la vigile pascale. On peut éventuellement en faire moins, il y a des choix possibles. Et celui-là est obligatoire, c'est le seul de l'Ancien Testament qui doit être lu ce soir. Vous avez compris à quel point c'est central, vraiment le centre du triptyque. Ce chant de l'exultète. Il a la même dignité que la proclamation de l'Évangile. Le diacre va s'incliner devant le prêtre pour demander la bénédiction. Il va demander la grâce de pouvoir chanter l'exultète. Et il va dire, par exemple, « Vous, mes frères bien-aimés, » il va s'adresser à nous, « à la lumière de cette flamme, ne cessez pas d'en appeler avec moi à la bonté du Tout-Puissant. Il m'a choisi dans mon indignité pour être à son service. » Que sa lumière me pénètre et je chanterai la gloire du cierge pascal. Et bien entendu, nous allons chanter la gloire du cierge pascal. Alors évidemment, ce n'est pas le cierge en lui-même, c'est ce qu'il représente. De la même manière que hier nous avons vénéré la croix, ce n'est pas le morceau de bois que nous avons vénéré, bien sûr, c'est le Christ. Nous allons chanter la gloire du cierge pascal, le Christ ressuscité. Je cite des passages. « Ô nuit de vrai bonheur !» Toi seul as pu connaître cette heure où le Christ a surgi des enfers. C'est de toi qu'il fut écrit, la nuit resplendira comme le jour, la nuit même est lumière pour ma joie. Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l'amitié et soumet toute puissance. Cette nuit, la nuit de Pâques. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père très saint en sacrifice du soir la flamme montant de cette colonne de cire, fruit du travail des abeilles, que l'Église t'offre par nos mains. Toute la création, par la mention des abeilles, toute la création s'associe à cette louange. Nous savons, poursuit le chant, ce que proclame cette colonne qui brûle en l'honneur de Dieu. Quand on en transmet la flamme, sa clarté ne diminue pas. Ô nuit du vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Aussi nous t'en prions, Seigneur, permets que ce cierge pascal consacré à ton nom brûle sans déclin dans cette nuit, qu'il soit agréable à tes yeux et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas de couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix. C'est seulement le début. Après ce chant de l'exultète, nous nous assierons pour entendre un certain nombre de lectures. Pourquoi autant de lectures? Parce que vous avez bien compris que cette nuit doit durer. C'est une nuit de veille. L'Église propose 9 lectures. Mais c'est peu. Dans l'Antiquité, on en lisait 12. Et encore. Et puis ça durait toute la nuit. Là, un peu moins peut-être. Quoique. Alors c'est une nuit où on ne regarde pas sa montre. Nous commençons par la Genèse. Vous voyez, ça prend du temps. Et puis, nous allons passer la mer Rouge. Et puis, en passant par les prophètes, nous arriverons au Christ. Alors, vous avez l'habitude, quand vous allez à la messe le dimanche, d'entendre une lecture de l'Ancien Testament, un psaume, une épître, une lecture de, souvent de saint Paul, dans le Nouveau Testament, et puis ensuite l'Évangile. Donc là, la structure est un petit peu la même. On va lire 7 lectures de l'Ancien Testament. Pour chaque lecture, il y aura un psaume. Et pour chaque lecture psaume, une oraison. Vous voyez ? Donc c'est à peu près 7 fois plus long que le dimanche d'habitude, mais vous êtes courageux. Alors ce qui est beau, c'est qu'on ne va pas pouvoir forcément tout entendre, tout comprendre, tout retenir, parce que notre cerveau ne peut pas, parce que c'est trop riche. Mais ce n'est pas grave, il faut se laisser porter et demander au Seigneur de nous faire entendre ce que nous avons besoin d'entendre. Chaque année, c'est la même vigile pascale, mais chaque année nous sommes différents et le Seigneur a une grâce particulière pour nous cette année. Vous entendrez des choses que vous avez déjà entendues dans ce tridium. Le psaume 15, « Tu ne peux abandonner mon âme à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Chaque oraison qui suit la lecture et le psaume permet une actualisation, c'est-à-dire que ces textes de l'Ancien Testament, vous allez me dire c'est des vieilles histoires, mais vous avez commencé à comprendre, je pense, depuis 2 jours, si ce n'était pas déjà fait, qu'évidemment, on peut en faire une lecture christologique, on peut voir le Christ. Par exemple, la dernière lecture, je ne sais pas si vous l'aurez, mais ici à Parelmonial, il faudrait, Ézéchiel 36. Vous savez, c'est le prophète Ézéchiel qui dit, qui fait parler Dieu, qui parle, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau ». Alors vous pourrez reprendre ce texte, il sera suivi d'un psaume, et puis l'oraison qui actualise ce texte. Seigneur notre Dieu, puissance et lumière sans déclin, regarde avec bonté le sacrement merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la paix l'œuvre du salut des hommes. Que le monde entier reconnaisse la merveille, celui qui était abattu et relevé, ce qui avait vieilli et rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Voilà, ce sont des prières très anciennes. Depuis toujours, l'Église a lu dans ces textes de l'Ancien Testament à repérer le Christ qui s'annonce. Et puis, à la fin de ces lectures de l'Ancien Testament, nous chanterons le Gloria. Alors, normalement, le dimanche, le Gloria, c'est avant les lectures, si vous suivez. Mais là, c'est un peu particulier. Chanterons le Gloria, c'est ce crescendo de la vigile pascale. Après avoir écouté toute l'histoire du salut, nous chantons la gloire de Dieu, ce chant que les anges ont chanté à Noël, à la naissance du Christ. Et par ce Gloria, avec les cloches qui sonnent, nous passons au Nouveau Testament, à la venue du Christ. Et là vient la deuxième lecture obligatoire. Il faut toujours faire attention de savoir ce qui est obligatoire, parce que c'est central, si c'est obligatoire. Je sais bien. Et alors, c'est Romains 6, que je veux vous lire. Romains 6, 3, 11. Cette épître est un peu une clé de lecture de ce qui se passe dans la vigile pascale. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, le ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, il y a tout dans ce texte. Le baptême, comme disait l'oraison du jour que nous avons encore entendue à la fin de l'office il y a quelques minutes, le baptême nous a ensevelis et le Christ est venu nous chercher pour nous faire ressusciter avec lui. Je relis cette oraison. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, samedi saint, nous sommes au tombeau et ce soir, le Christ va nous sortir du tombeau. Et c'est tout le sens du baptême que nous allons renouveler spirituellement, au moins nous allons être renouvelés dans les grâces de notre baptême. Et ce texte nous montre à quel point ce tridium pascal, cette vigile pascale, c'est pour nous. C'est-à-dire que, comme toute liturgie, bien sûr, il s'agit de rendre gloire à Dieu. Mais comme dit une préface, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant, c'est toi qui nous donnes de te louer. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. Vous avez déjà entendu, il y a une préface qu'on entend parfois le dimanche. Notre liturgie n'ajoute rien à ce qu'est Dieu. Le Christ est ressuscité une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de vivre ça chaque année, chaque dimanche, chaque jour? C'est parce que nous sommes dans le temps et nous sommes en croissance. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, vient nous renouveler. Et chaque année, il vient nous renouveler par la Pâque. Comme il vient nous renouveler chaque dimanche par l'Eucharistie. Ou chaque jour. Donc c'est bien pour nous. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, dit saint Paul, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Voilà ce que le Christ veut nous donner. Alors après cette lecture de saint Paul, Romains 6, eh bien, nous nous lèverons pour chanter l'Alléluia de Pâques. Enfin, l'Alléluia de Pâques qui... Alors là, vous avez un psaume qui est le psaume 117. Alors vous avez déjà eu normalement 9 psaumes. Non, 7, je ne sais plus. 7 psaumes. Donc là, c'est le 8e. Suivez là. Alors c'est magnifique parce que d'habitude, on chante Alléluia, puis il y a un petit verset, et puis on reprend Alléluia, vous voyez. Là, il y a Alléluia, puis il y a un psaume entier, donc il y a 3 strophes. Donc c'est Alléluia plus plus. Pourquoi ? Parce que Alléluia veut dire louer Dieu. C'est le chant de résurrection par excellence. Si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que c'est le chant des rachetés dans le sang de l'agneau. Donc c'est notre chant de résurrection, notre chant de victoire. Je vous ai cité ce matin le Vexilla Regis, qui est le chant pour le Vendredi Saint, qui dit à quel point c'est une armée qui combat. Et c'est une victoire que celle du Christ. Donc nous allons chanter notre victoire ce soir, le triomphe du Christ sur la mort. Et ce psaume 117, vous allez l'entendre encore toute la semaine, qui est l'octave de Pâques. Vous savez que la semaine qui vient, c'est Pâques tous les jours. Vous pouvez retourner à la messe, tous les jours, et chanter le psaume 117, en rendant grâce pour ce que vous avez vécu ici. Alors, je vais juste le retrouver. Nous le chanterons déjà demain matin à la messe de Pâques, et puis encore toute la semaine, et puis dans le temps pascal régulièrement. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est dans le même psaume qu'on entend « Voici le jour que fit le Seigneur, jour d'allégresse et de joie ». C'est pour ça que nous le chantons pendant le temps pascal, qui est un seul jour de fête jusqu'à la Pentecôte. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être dans le premier ou le deuxième enseignement, je vous avais parlé de cette pierre d'angle. L'autel est la pierre d'angle qui représente le Christ symboliquement, qui est sur qui repose tout l'édifice. La pierre d'angle, symboliquement, c'est vraiment ce qui est solide et qui supporte le bâtiment. Et le centre de tout. Et donc, cette pierre d'angle, c'est le Christ. C'est pour ça que le psaume 117 de l'Alléluia Pascal chante « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Celui qui hier a été rejeté par les hommes, celui qui a été crucifié, qui a été rejeté, celui qui est venu chez les siens et que les siens ont rejeté, comme dit le prologue de saint Jean, celui-là même, le Christ, est devenu la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Je vous avais parlé du mystère pascal depuis le début, je vous dis que c'est un retournement. Que c'est dans une situation de mort que le Seigneur vient retourner. On passe de la mort à la vie, et ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Voilà ce que chante le psaume 117. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Comment est-il possible que le Christ soit ressuscité ? Eh bien, c'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voilà ce que nous chantons dans l'Alléluia de Pâques. Et ensuite, nous chantons, nous proclamons l'Évangile selon saint Luc, qui raconte l'arrivée des femmes au tombeau, qui trouvent la pierre roulée sur le côté. Et puis, le prêtre fait l'homélie et ensuite a lieu la liturgie du baptême. Qui commence. Alors, s'il y a des baptêmes par la litanie des saints, mais de toute façon, par la bénédiction de l'eau. Alors, c'est très intéressant, cette bénédiction de l'eau. Alors, comme toute bénédiction, le prêtre commence par rendre grâce pour tout ce que Dieu a fait dans l'histoire. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre toutes les préfigurations du baptême, son entête prière. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit-Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà cette récapitulation, cette préfiguration de l'eau du baptême. Depuis la création, en passant par le déluge, en passant par la mer rouge, c'est qu'à le dire, jusqu'au côté ouvert du Christ d'où jaillissent le sang et l'eau, la naissance de l'Église, la source du baptême et de l'Eucharistie, le sang et l'eau. Et la prière continue par cette formule très forte. « Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit-Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Puis le prêtre invoque l'Esprit Saint, ce qu'on appelle l'épiclèse, un petit peu comme à la messe pour la consécration. Là, c'est un petit peu le même genre de prière. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Voilà cette eau qui jaillit, qui a jailli hier de la croix, du cœur ouvert du Christ sur la croix, et qui est cette fontaine ouverte pour toutes les nations, pour laver péché et souillure, comme nous disait Zacharie 13, que nous lisions au tout début de cette retraite. C'est pourquoi ce soir, après avoir vécu cette bénédiction et avoir vécu éventuellement les baptêmes, je ménage le suspense, nous serons nous-mêmes, après avoir, ce que je vous ai dit ce matin, renoncé à Satan et professé notre foi, pour laquelle vous êtes préparés depuis ce matin, après avoir dit notre foi, nous serons aspergés par cette eau bénite. Alors nous ne sommes pas baptisés à nouveau, le baptême est une fois pour toutes, mais c'est un signe, un peu comme quand on entre dans l'église, vous savez qu'on peut se signer avec l'eau qui est à l'entrée de l'église, cette eau bénite, qui nous rappelle notre baptême. Bien, ce soir, nous allons demander au Seigneur de répandre abondamment son Esprit Saint, lui qui a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, l'Esprit Saint qui est répandu pour nous ». Nous demanderons au Seigneur d'être renouvelé dans l'Esprit Saint, de faire jaillir la source du baptême pour nous, d'être entièrement renouvelé. Et nous chanterons « Vidi aquam », « J'ai vu l'eau vive ». J'ai vu l'eau vive jaillir du côté droit du temple. Vous vous rappelez Ézéchiel 47, si vous ne l'avez pas encore relu, c'est le moment. Ézéchiel 47, le prophète voit un petit filet d'eau qui sort du côté droit du temple, et puis plus il avance, plus il grossit, au point de devenir un fleuve infranchissable. Et le prophète explique que partout où passe ce torrent, la végétation grandit. C'est un fleuve qui guérit, qui donne la vie. Donc demandons au Seigneur, présentons-lui ce soir tout ce qui est mort en nous, tout ce que nous avons pu voir pendant ces jours, qui est encore fermé, qui a besoin de la résurrection du Christ. Et dans ce moment où on sera aspergé, qu'on reçoive cette eau avec foi, que le Seigneur veut nous laver. C'est l'eau jaillie du côté ouvert du Christ qui jaillit, cette eau du baptême, de la nouvelle naissance. Donc rendons grâce à Dieu ce soir pour le sacrifice du Christ qui fait toutes choses nouvelles et qui a ouvert cette source pour nous laver de nos péchés et nous donner accès à la vie éternelle. Enfin, le point culminant, enfin tout n'est que des points culminants, de la veillée, c'est bien entendu la liturgie eucharistique. Nous avons commencé cette retraite par l'institution de l'Eucharistie. Nous avons peut-être approfondi le sens, du moins je l'espère, et nous n'aurons jamais fini d'approfondir le sens de l'Eucharistie, qui est ce mémorial de la Passion et de la Résurrection du Christ, ce lieu où nous recevons en permanence tout ce que nous avons reçu pendant ces jours. Tout est contenu dans ce pain et ce vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ. Tout est contenu dans une seule messe. Ce tridium, ces trois jours, tout ce que vous avez pu voir, et encore, on n'a pas tout vu, tout entendu, parce qu'on n'est pas capable de tout découvrir en même temps, mais tout ce qui est là est contenu dans l'Eucharistie. Quand nous adorons le Saint-Sacrement, tout est là, tout est donné. Nous avons la mort et la résurrection du Christ, nous avons l'eau vive, nous avons l'Esprit-Saint, nous avons la vie nouvelle. Je vous ai dit au début de cette retraite, je vous invitais à regarder l'autel pendant ces trois jours, la manière dont il évolue. Alors jeudi soir, c'était la table de la scène, comme une table quand vous invitez chez vous le dimanche, que vous mettez une belle nappe blanche, la table du repas. Et puis, le lendemain, vendredi, depuis vendredi, l'autel est dépouillé. C'est la pierre du sacrifice qui rappelle la pierre sur laquelle on pouvait immoler les agneaux. Le Christ, notre Pâque, l'agneau a été immolé, l'agneau immolé. Il est l'agneau véritable. Voilà ce que rappelle cet autel, tous les autels. Et alors, vous regarderez l'autel ce soir, pendant la vigile pascale. Je ne sais pas comment il sera. Je n'ai pas le secret des fleuristes, mais en tout cas, on peut imaginer qu'on va voir quelque chose d'un peu différent, avec beaucoup de cierges allumés, sans doute beaucoup de fleurs, des nappes blanches. Et là, c'est plus encore que la fête de jeudi soir. C'est carrément le festin des noces de l'agneau dans le ciel. Voilà. Donc on sera entré dans autre chose que ce que nous connaissons. Symboliquement, nous serons à la table des noces de l'agneau. Quand le Christ institue l'Eucharistie, le jeudi saint, il dit... La phrase exacte, peu importe. Je ne boirai plus avec vous jusque dans... Voilà. Qui ne boirait plus du produit de la vigne jusqu'à ce qu'ils boivent le vin nouveau dans le royaume. Vous vous rappelez, il dit ça à ses disciples. Mais ce soir, le voilà arrivé dans le royaume. Le Christ, notre Pâque, a été immolé et nous introduit dans le royaume de son Père. Nous sommes déjà un petit peu dans la Jérusalem céleste. Et c'est ce que représente le temps pascal. Le jour sans déclin, l'éternité. Vous savez qu'dans une semaine, il y a 7 jours. Ça va jusque-là. Et le dimanche est appelé premier jour de la semaine dans l'Évangile, ou bien encore le 8e jour. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de premier jour et de 8e jour? C'est la même chose, non? Après le 7e, il y a le 8e, mais en fait, c'est le premier de la semaine suivante, donc c'est pareil. Et en fait, ça a un sens symbolique, c'est que le 8e jour, si on dit 8, c'est qu'on ne revient pas à 1. Et si on ne revient pas à 1, ça veut dire qu'on sort du cycle habituel. Vous savez, rien de nouveau sous le soleil. On sort, ça veut dire qu'il y avait un cycle, 7 jours, et ça, une année, une autre année, encore une autre année. Et à un moment, on prend la tangente et on passe dans l'éternité. On sort du temps. Donc ce 8 symbolise la sortie du temps. On est dans autre chose qui nous échappe, nous, complètement, parce que pas l'habitude. Et le temps pascal, c'est 7 fois 7 jours plus 1. Ça fait 50. 49 plus 1. 7 fois 7, 49 plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 7 fois une semaine. Donc si 7, c'est la plénitude, le chiffre parfait, 7 fois 7 plus 1, ça veut dire on est sorti du temps. Le temps pascal, c'est un seul jour de fête. Ce soir, nous entrons dans le temps pascal, nous entrons dans la fête de Pâques, ça vous le saviez, jusqu'ici c'est pas un scoop, mais je ne sais pas si vous avez réalisé qu'en fait ça va durer 50 jours. Alors vous pouvez rester à Paris si vous voulez, on pourra peut-être pas, mais en fait c'est pareil parce que c'est dans toute l'église, ça tombe bien, et donc quand vous rentrerez chez vous, vous aurez ce cierge pascal dans votre église pour vous rappeler, ah oui, un seul jour de fête qui dure 50 jours. Entre parenthèses, le carême a duré 40 jours de pénitence. Et la fête va durer 50 jours. Vous en conclurez ce que vous voulez. Alors nous chantons à pleine voix ce soir la victoire du Christ. Je rappelle ce chant de l'Exultet pour terminer, pour vous laisser avec ça. Vraiment, il est juste et bon de te chanter à pleine voix. De chanter à pleine voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu invisible et son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous au Père éternel le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Car voici la fête de la Pâque dans laquelle est mise à mort l'agneau véritable dont le sang consacre les portes des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et tu leur as fait passer la mer rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tout l'univers ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Et rendez-vous ce soir pour vivre ensemble cette nuit, cette sainte nuit, la mère de toutes les saintes veillées. Préparons nos cœurs, prions les uns pour les autres. Amen.